Et nous verrons d'ailleurs que cela nous est retraduit par deux fois. Ce sont deux scènes différentes. La première fois, c'est un ange qui nomme Jacob Israël. Et la deuxième fois, c'est Dieu lui-même qui confirme ce changement de nom. Alors, bien entendu, ça nous pose toute une série de problèmes. D'abord, de comprendre ce que c'est qu'un ange. La Sidra parle beaucoup des anges, d'ailleurs. Et je crois qu'au fond, on n'a jamais pris le temps d'étudier cela à fond. Et je ne sais même pas si on aura le temps ce soir. Enfin, quelles que soient les implications, c'est surtout la cohérence du récit que nous allons suivre. Et le Midrash explique ce que Rashi, le commentateur, cite d'ailleurs, que cet ange qui, la première fois, change le nom de Jacob pour lui donner le nom d'Israël, c'est l'ange d'Ésaü. Nous allons commencer par ce thème-là. Et ensuite, Dieu confirme ce changement de nom. Et puis, après cette introduction, nous lirons les premiers versets de la Sidra, puisqu'il s'agit de l'initiative que prend Jacob, au moment où il revient de son exil chez Laban, de l'initiative qu'il prend d'offrir la paix à Ésaü. Or, cette offre de paix n'a pas de suite, elle tourne court, et il va donc y avoir une lutte. Et c'est à la suite de cette lutte entre Jacob et l'ange d'Ésaü que finalement Jacob aura pour nom Israël. Je voudrais tout de suite vous dire, à travers toutes les introductions, et nous étudierons aussi quelques versets ou un verset, en tout cas dans Rashi. Ensuite, assez rapidement, nous essaierons de faire le paragraphe du Ben Ishraï sur le même thème. Le changement de nom entre Jacob et Israël et ce que cela représente. Mais le thème d'étude que nous allons choisir, c'est que, d'après les versets eux-mêmes, que je vais vous relire immédiatement, il semblerait que ce nom d'Israël est déjà préparé. Il se passe comme si, nous allons le voir d'ailleurs immédiatement dans le texte, tant l'ange en question, qui est l'ange d'Ésaü, à la suite de ce combat, que Dieu lui-même attendait depuis toujours l'occasion de pouvoir donner ce nom d'Israël à quelqu'un. Je veux dire, la logique d'explication de ce nom d'Israël et le changement de nomination que ça représente par rapport à Jacob nous est donnée par le contexte du verset. Mais il semble que ce nom, en tant que titre d'Israël, au fond, c'était le nom qui était attendu depuis le début de l'histoire humaine, c'était une sorte d'authentifier l'homme, la manière d'être homme, le type d'homme qui aurait réussi à mériter de le recevoir, à obtenir de recevoir ce titre. Vous comprenez bien ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tellement d'un tafkid précis, de telle ou telle fonction dans l'histoire, à l'intérieur de l'histoire humaine, ce qui est le cas pour chacun des récits où on voit qu'un certain personnage, des héros des récits bibliques, se trouve être nommé de tel nom, parce que c'est tel ou tel tafkid, donc telle ou telle fonction à l'intérieur de la société humaine en général. Nous avons peut-être parlé de cela il y a 15 jours, il me semble, lorsqu'on a parlé de cette expression « nommer quelqu'un » qui intervient dans le récit biblique. C'est lui donner à quelqu'un son tafkid, je crois que c'est le mot le plus précis qu'on pourrait choisir en hébreu, sa fonction, sa destinée, mais destinée est chargée d'un sens un peu différent. Ce n'est pas du tout un destin, c'est une destination pour les actes. Enfin, en tout cas, une fonction dans le métier d'homme. Mais Israël a une portée beaucoup plus générale. C'est là que culmine, que convergent tous ces efforts pour engendrer la créature, l'être, l'homme que Dieu avait voulu créer lorsqu'il a décidé de créer le monde, à l'intérieur de cette cohérence, que finalement apparaît ce personnage de Jacob dans l'histoire qui lui est propre, et il reçoit le titre d'Israël. On passait par un peu d'érudition du Midrash. Je vous rappelle cet enseignement qui nous est donné par le Midrash, qui est repris par le Baal HaTzuvim. C'est pour Israël que le monde a été créé. Que dès l'origine, Dieu a vu que Israël accepterait la Torah. Alors il a créé le monde. Pour bien comprendre le thème qu'implique ce Midrash, je voudrais revenir sur une explication que je vous donne souvent à ce propos. C'est que, effectivement, ce terme d'Israël est censé désigner, a priori de toute histoire, l'être que Dieu a voulu créer. Et puis voilà que le monde a été créé à un certain point de départ de l'histoire, du temps, de la durée, et puis il est arrivé qu'une des manières d'être homme a coïncidé aussi avec ce modèle il faudrait dire, transcendante par rapport à l'immanence de l'histoire proprement dite. C'est que nous vivons aujourd'hui dans une ambiance culturelle qui est allergique aux catégories de la transcendance et qui essaye de rendre compte du mystère de l'existence uniquement dans les perspectives de l'immanence. Et il faudrait réfléchir pourquoi l'homme moderne, l'homme contemporain a peur de la notion de transcendance. Et au fond, il y a plusieurs réponses possibles. Enfin, la réponse qui serait la plus centrale de la sagesse juive, c'est parce que la notion de transcendance implique celle du jugement, implique un jugement. S'il y a effectivement une transcendance ou une perspective transcendante, je veux dire transcendantale, ça ressemble trop au quantique. Enfin, a priori de l'histoire, il y a donc un modèle par rapport auquel on est confronté, une certaine essence qu'il faut arriver à incarner, il ne faut pas avoir peur des mots, et que bien sûr toute cette histoire, cette tentative d'arriver à rejoindre le modèle qui existe a priori, et cette tentative elle-même, c'est l'histoire, et elle se fait dans une immanence permanente, quotidienne. Mais, si j'ose dire, c'est trop simplifié, mais les deux choses sont vraies. Il y a un modèle qu'il faut arriver à rejoindre. Que ce modèle se façonne en tant que modèle transcendant lui-même, que ce modèle se façonne, que son visage se figure au fur et à mesure de la tentative dans l'immanence, c'est vrai aussi. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un but à atteindre et à rejoindre. C'est ce que dit le Midrash, qui nous dit que le nom, Shemon Shel Mashiach, donc la figure du Mashiach, du Messie, préexiste à l'histoire du monde. Alors il faut comprendre ce que cela signifie. Ça ne signifie pas une sorte de fatalité déjà décidée à l'avance, ça ne signifie pas que tout est joué à l'avance, ça signifie qu'il y a un projet qu'il faut arriver à réaliser. Mais le projet, ce n'est pas l'homme qui l'invente. C'est le fait de réussir le projet qui est le mérite de l'homme. Mais le projet, eh bien, c'est le créateur qui le propose. Voilà donc quel est le thème. Eh bien, ce projet, cette figure du Mashiach, si j'ose dire, du fils de l'homme réussi, cette authenticité humaine, celle qu'au fond chaque individu, dont chaque individu a exigence au fond de lui, eh bien, elle préexiste à toute histoire. Et alors, est-ce que ça voudrait dire que l'histoire n'a pas de sens, puisque cela préexiste? Est-ce que cela serait prédéterminé? Pas du tout. Et ceci dit, comme on pourrait dire, il faut le faire. C'est-à-dire, le projet existe, mais il faut le réaliser. Et cela est vrai de toutes les valeurs. Cela est vrai de toutes les valeurs. Il est bien évident que c'est l'effort de l'homme en tant que créature de réaliser les valeurs, mais les valeurs, l'homme ne les invente pas. On peut dire à la limite qu'il y a eu des archétypes de l'humanité, les Avot, qui ont réussi à être les premiers à deviner quel était ce projet qu'il fallait réussir et qu'il fallait réaliser. Et par conséquent, en ce sens-là, on peut dire qu'ils ont été les inventeurs, mais non pas du projet lui-même, mais des moyens de réaliser ce projet pour la première fois. Je vous donne des exemples très, très rapidement, et on pourrait citer toutes les valeurs, ou n'importe quelle des valeurs. L'effort moral, c'est d'être, par exemple, bon. Mais la bonté, ce n'est pas l'homme qui l'a inventée. Il y a une transcendance qui fait que la bonté est ce qu'elle est. Mais l'effort moral n'en garde pas moins son mérite, puisqu'il s'agit d'inventer les moyens de l'être. Est-ce que c'est bien clair? Et d'ailleurs, ceci vaut pour toutes les valeurs, pas seulement les valeurs morales, mais aussi tout ordre de valeurs. Il y a, dans la philosophie contemporaine, comme vous le savez, puisque nous parlons de ça, tout un conflit entre les philosophies de l'essence et les philosophies de l'existence. C'est un conflit qui ressemble un peu à ce problème de la transcendance et de l'immanence, quoique ce n'est pas exactement la même chose non plus. Enfin, tout ça, c'est ce que je comprends. Le fond du problème, c'est que, oui, il y a des essences, mais c'est l'existence seule qui arrive à les incarner. Oui, il y a une transcendance, mais c'est dans l'immanence que ça se fait. Et ça n'a pas beaucoup de sens que de nier l'un par rapport à l'autre. Alors, c'est ce que dit le Midrash. La figure du Mashiach existe avant l'histoire, parce que c'est elle qu'il faut arriver à réaliser. De la même manière, le Midrash que je vous citais, c'est que tout se passe comme si notre texte parle de ce monde d'Israël comme s'il est préparé à la mort. Voici les deux références d'abord desquelles nous partirons. La première fois, lorsqu'il s'agit de l'ange de Esav qui nomme Jacob du nom d'Israël, et nous aurons donc à expliquer ce que représente cet ange de Esav pour le Midrash. Alors, cette première référence, c'est chapitre 32, verset 20, dans Bereshit. C'est au moment où, dans la lutte entre Jacob et Satan, Jacob est, comment dire, victorieux. Chapitre 32, verset 29. C'est lorsque Jacob est victorieux, alors Vayomer, l'ange lui dit, Lo Yaakov Yamer Od Simcha, ce n'est pas, et ça signifie donc ce n'est plus Yaakov, ce n'est plus Jacob que sera nommé ton nom, qui im Israël, mais Israël. Qui s'arrita im Elohim et im Anashim Batuchal, et ensuite il y a l'explication pour laquelle Jacob mérite ce nom d'Israël. Et parce que tu as rivalisé, s'arita, lutté, rivalisé, dans le sens d'être plus puissant que. Il avait la racine, je te donne le mot de Sar, qui signifie prince. Parce que tu as lutté, im Elohim, avec Dieu, il faudrait traduire, mais ça veut dire ici avec l'ange en question, c'est-à-dire avec une réalité divine, mais im Anashim, mais avec les hommes, Batuchal, et tu as pu le faire. Vous voyez quelle est la cohérence du verset. De toutes les façons, la fin du verset ne vient pas expliquer pourquoi Jacob est nommé Israël. Jacob est nommé Israël. Et je veux dire, pourquoi c'est le nom d'Israël qui est donné à Jacob. C'est le nom d'Israël qui est donné à Jacob. Et ensuite le verset explique pourquoi Jacob a pu l'obtenir. Vous comprenez la différence de ce que je veux dire. L'explication qui s'arrête à l'inélotine. C'est pas pour expliquer pourquoi c'est le nom d'Israël qui sera le nom de Jacob. Jacob a été nommé Israël. Et Israël, c'est le nom qui est préparé pour l'homme qui aura réussi à être le tzaddik. Et ensuite, le verset explique pourquoi c'est Jacob qui a pu réussir à être ce tzaddik. Et nous avons ce verset en mémoire parce que cette double lutte à deux niveaux, avec des réalités divines, il faut dire contre, des réalités divines d'une part, des réalités humaines d'autre part, c'est une sorte de clé de lecture de l'ensemble de tous ces textes que nous avons dans la sidra de cette rencontre entre Jacob et Ésaü. Vous voyez, on pourrait dire d'ailleurs que Sarita im Elohim, c'est au niveau de la transcendance, et im Anashim, et ça c'est au niveau de l'humain. Et puis, deuxième texte, c'est lorsque Dieu confirme à Jacob que cette réussite est effective et définitive, irréversible. Vayomerlo Elohim, et Dieu dit à Jacob, et lui dit, Shimcha Yaakov, ton nom de Jacob, Loïkare Shimcha Od Yaakov. Ton nom était Jacob, mais ton nom de Jacob ne sera plus nommé ainsi, qui in Israël y est Shimcha, mais Shemcha. Ce sera Israël qui sera ton nom, Vaïkret Shemo Israël, et il le nomma son nom Israël, il le destina à devenir Israël. Vous prenez du tchat, la traduction du mot de Israël est surtout expliquée dans le sens de Yachar El, celui qui a réussi à réaliser la droiture de Dieu, la droiture de Dieu. C'est-à-dire, on a l'habitude de citer une autre explication, celui qui peut buter avec Dieu ou contre Dieu, d'après le sens du verset, mais c'est une explication qui est partielle, inexacte, puisque le verset dit deux choses, que ça devrait signifier dans cette cohérence, celui qui peut lutter contre Dieu et contre les hommes. Mais dans Israël, il n'y a pas la notion de lutte contre l'homme. Alors, on ramène les lettres du mot Israël à Yachar, Yud, Shin, Resh, El. C'est l'homme qui a réussi à incarner littéralement la droiture divine. Et ça s'oppose à Yaakov, la racine du mot de Yaakov, elle a été interprétée par Ésaü lui-même dans les textes précédents, qui peut traduire, qui peut citer le verset d'ailleurs. Yaakov beni ze paramaï, et ça veut dire en français, lorsque Ésaü a perdu d'une part l'aînesse, la Bechora, et d'autre part la bénédiction, la Bracha, alors il dit, Yaakov beni ze paramaï, il se plaint à son père, Isaac. On n'a pas dit de faire exactement. C'est ça que je disais. Oui. M'a trompé. Mais quelle est l'idée qu'il y a en hébreu? Je vous citerai un verset d'Isaïe qui éclaire ça. Isaïe dit dans une autre prophétie, il arrivera un jour où Ve'aya Yaakov le Mishor. Ous Herakur, ce qui est tortueux, deviendra droit. Et on passe de Yaakov à Yeshurun, à travers Israël. Yacharel, c'est l'effort qui va de Yaakov à Yeshurun. Yeshurun est le nom unique d'Israël. Et qui implique l'idée de droiture. C'est ce que dit donc le prophète, Veaya Herakur le Mishur. Tant que nous sommes dans les efforts de l'histoire, donc immanente, eh bien, il y a parfois des chemins tortueux. Voilà. C'est un peu le point de vue des non-juifs sur l'histoire, oui, c'est un peu comme ça. Jacob, Yaakov. Voilà. Mais finalement, lorsque le but est atteint, alors le nom de Israël apparaît, et de façon ultime, le nom de Yeshua. Est-ce que vous comprenez ce idée qu'il y a dans cette histoire? Donc, effectivement, il arrive à un certain stade où Jacob, qui dans les apparences s'appelle Yaakov, dans le sens de Yaakov, ce qui est tortueux, se voit être confirmé dans son nom d'Israël, c'est-à-dire la droiture, dans sa mida de Emet, c'est-à-dire juste le contraire. Je reviens très rapidement à ce verset pour vous citer un chidouche. Et cette phrase, Vaya akadimi ve paramaim, et il m'a trompé celui-là deux fois, par deux fois, et dit par Jacob, par Ésaü, au moment où il arrive, pour recevoir la bénédiction d'Isaac. Ce n'est que Isaac avait demandé que son fils Ésaü lui prépare un repas et qu'il le bénirait à travers le goût de ce repas. Et voilà que Jacob, sur les conseils de Rivka, a déjà préparé ce repas et l'a lui apporté. Et puis, le texte dit que juste au moment où Jacob sort, Ésaü est rentré. Et alors, la marmite du repas de Jacob était encore là. Et le Midrash dit qu'en disant « Vayakademi ze paramaïm », Ésaü a désigné le chaudron, la marmite, ze. Et effectivement, c'est par deux fois, si j'ose dire, qu'il s'est fait avoir à cause d'un repas. La première fois, c'était le plat de lentilles, et la deuxième fois, c'était le chevreau. Et c'est facile à comprendre. Dans la division des tâches, des objectifs de Ésaü et de Jacob, dans le plan de Isaac, vous vous souvenez, nous avons parlé cela la semaine dernière, il fallait qu'un des deux enfants, qui sont les deux jumeaux qui, à eux deux, portent l'identité humaine, un de ces deux jumeaux s'occupe des tâches matérielles, en fin de compte de tout ce qui fait que l'on peut exister à travers le corps. Donc en fin de compte de toutes les valeurs terrestres, matérielles, qui, à travers la nourriture, nous donnent l'existence. Par conséquent, c'est en principe Ésaü qui a choisi les tâches matérielles, qui était celui qui devait savoir préparer à manger et donner un goût à la vie terrestre. C'est ce goût-là que Isaac avait dans la bouche et qu'il imputait à Ésaü. Isaac pensait donner les bénédictions matérielles à Ésaü parce qu'Ésaü s'est préparé à manger une vie terrestre qui est du goût. Alors voilà que Ésaü a été disqualifié à ce niveau-là. À cause du fait que Jacob a dû lui préparer en plus à manger. Et puis la deuxième fois, il s'est avéré que Jacob était aussi capable donc de donner ce goût de la terrestre, matérielle, c'est-à-dire des tâches des Ésaü, en principe, des tâches matérielles. Il y a dans tout ce conflit humain, nous l'avons vu de différentes façons, il y a deux équations possibles. Ce qui était indiqué de nouveau par le fameux verset, la voix c'est la voix de Jacob et les mains c'est les mains d'Ésaü, soit un homme du monde de la matière qui s'occuperait des tâches de l'esprit, et c'est l'échec, parce que le Shoresh, Chomri, rend impur le roi, c'est clair, c'est l'homme des évidences matérielles qui s'occupe des tâches de l'esprit, et bien l'esprit est rendu impur. Alors qu'à l'inverse, c'est l'homme des vocations spirituelles qui s'occupe aussi des tâches matérielles, alors la matière est sanctifiée, alors la matière est transfigurée. Et c'est Jacob qui a réussi à faire cette preuve qu'il est capable de faire à manger, et même pour Ésaü. Que Ésaü arrive à un stade où lui-même ne peut plus avaler, mais il y a heureusement un Jacob pour lui redonner le goût de la vie terrestre, de la vie matérielle. Et nous reverrons une autre péripétie de cette lutte entre Jacob et Ésaü à deux niveaux, au niveau céleste, comme nous allons voir, déjà en premier niveau, dans les épisodes que nous allons étudier. Mais d'abord, il faut retenir ce passage important, c'est que il y a un a priori du critère de la réussite de l'histoire de l'homme en tant que créature, et finalement, c'est Jacob qui arrive à en faire la preuve, qui est capable de s'affirmer dans son mérite d'être, tant face aux réalités célestes, divines, qu'aux réalités terrestres, proprement humaines. Et cette lutte finit par se cristalliser avec Ève, avec le génie d'Ève. Pendant tout le temps de cette histoire, il se nomme Jacob, et Jacob, ça veut dire Rakov, le talonneur, celui qui a attrapé déjà au moment de la naissance son frère au talon. Et c'est pas simplement une schématisation, c'est effectivement ce que nous avons vécu. C'est ce dont toute l'histoire nous a accusé, à travers toute l'histoire juive. Le terme de juif en tant qu'adjectif signifiait cela, dans le point de vue des Goyim, dans la bouche des Aïus, deux fois plus qu'une, par Amri. Et puis, en fin de compte, il y a réussite, habilitation de ce que c'est Jacob qui est Israël. Alors nous savons, d'après les Mefarshim, que, alors que la mutation d'identité en Abraham, par exemple, est, elle, irréversible, à partir du moment où Abraham devient Abraham, c'est irréversible, on ne revient pas au stade antérieur, eh bien, cette nouvelle nomination de Jacob en Israël n'est pas forcément irréversible. Il peut y avoir des péripéties où Israël est de nouveau nommé Jacob. C'est en particulier ce que dit le verset suivant. Non, c'est pas le verset suivant, c'est dans un autre texte. Mais c'est Dieu appelle Israël, de Marot à Laïla, dans les visions de la nuit, Vayomerlo, Yaakov, Yaakov. Alors, dans le même verset, il y a d'abord le fait que Dieu appelle, dans le sens de appeler quelqu'un, appelle Israël dans les visions de la nuit et lui dit Jacob, Jacob. À propos de ce verset, la Gemara enseigne que lorsque Jacob retombe de nouveau dans les péripéties de ce qui est traduit par l'expression les visions de la nuit, alors il ne s'appelle plus Israël, mais Jacob. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans le déroulement de l'histoire postérieure à cette réussite à l'échelle individuelle, de nouveau des péripéties où Israël se nomme de nouveau Jacob. Et en particulier, on apprendra peut-être cela dans la Sidra de Vaïkrit de nouveau, le nom de Israël dans la Galoute, c'est Jacob, et le nom de Jacob en Eretz Israël, c'est Israël. C'est-à-dire qu'il y a le passage de Katnout à Galoute et de Galoute à Katnout dans ces péripéties qui font que Jacob est obligé d'entrer dans cette stratégie tortueuse, comme toute stratégie de la lutte contre l'adversaire qui est représenté par Ésaü. Je crois qu'à la limite, le thème qui apparaît là, qui est très important, c'est tout ce débat qu'il y a déjà de notre temps entre, vous savez, dans tous les cercles d'études, on appelle ça Israël et la diaspora, juif et israélien, enfin tout ce problème-là qui se trouve être cristallisé dans la tension, l'opposition entre ces deux termes, Jacob d'un côté, Israël de l'autre. Mais il faut quand même lire le Pshat. C'est Jacob qui est Israël, c'est pas un autre. Ce n'est pas n'importe qui d'autre. Vous comprenez tout ? C'est Jacob et personne d'autre qui est Israël. Et cet Israël peut avoir de nouveau les péripéties de ce que représente Jacob, bien qu'à l'échelle individuelle, cela soit irréversible, et cela signifie que tant que le conflit entre Israël comme nation et ce que représente Ésaü n'est pas achevé, alors il y a nécessité que Israël de nouveau prenne l'apparence de Jacob tant qu'il est dans la lutte. Ce n'est que lorsque la lutte contre Ésaü et l'ange d'Ésaü est achevée qu'alors le verset dit « Vaïvrach lo Hashemesh » et le soleil brilla pour lui, et vous verrez tout ce texte, qu'il est nommé Israël de façon définitive et irréversible. Nous retrouvons là, de façon très rapidement, le fameux principe des péripéties de l'histoire des Avot, des patriarches, comme préfiguration de l'histoire d'Israël dans son ensemble. Voilà donc la première introduction que je voulais vous signaler et vous rappeler. Bien, et maintenant nous allons rapidement aussi lire le premier verset de la Sidra, puisqu'il y a un jugement porté par le Midrash sur cette initiative qu'a pris Jacob. C'est un jugement assez ambigu. D'une part, on va mettre en évidence la vertu, et en particulier l'humilité, la vertu d'humilité de Jacob, qui va s'adresser à Ésaü en prenant l'initiative de lui demander la paix. Alors que nous apprenons d'autre part qu'il y a un véritable conflit qui deviendra un conflit de civilisation et un conflit d'identité. Il y a le conflit entre l'être issu de la sélection d'identité au niveau des patriarches et qui peut réussir à devenir Israël, et puis d'autre part, l'être issu de cette même sélection et qui était né comme jumeau et qui, lui, représente l'échec. Je vous rappelle cette équation. Il y a deux tâches à résoudre ensemble. Mais il y a une attitude de la volonté, une attitude de l'âme qui fait que on est soit Ésaü, soit Jacob. Et donc c'est le problème de tout homme. Et d'avoir à résoudre simultanément le mérite d'être au niveau matériel, au niveau du kéli de l'être, au niveau du corps, de la vie du corps, et le mérite d'être au niveau spirituel. Et puis, cette tâche, elle est déjà proposée au premier homme. L'histoire humaine tout entière commence par ce problème. C'est le problème de Caïn et d'Abel, qui étaient aussi des frères jumeaux, et qui ont eu à se répartir les tâches spirituelles, celles du berger, matérielles, celles de l'agriculteur, au niveau où on prend le récit au point de départ de l'histoire. Mais cela est repris à l'intérieur de l'identité de la famille d'Abraham, dans la perspective d'une solution. Au niveau de l'homme en général, qui est Caïn ou Abel, il n'y a pas de solution. C'est le meurtre perpétuel. Mais au niveau de cette même histoire reprise dans l'identité d'Abraham, alors c'est dans la perspective d'une solution. Et cette solution, elle va être dévoilée, enfin, elle va être prouvée, elle devient effective dans le récit à la génération postérieure au moment de l'histoire de Joseph. Voici de quoi il s'agit. C'est un clave qu'ont enseigné les kabbalistes. Il n'y a qu'une seule histoire que raconte la Torah dans tous ses sipourim, dans tous ses récits. Le fait qu'on cherche un type d'homme où il n'y aurait pas cet échec permanent qu'il y a à partir de Caïn et de Abel lorsque le frère tue le frère. Parce qu'il y a deux tâches contradictoires à résoudre ensemble, celle de la vie spirituelle et celle de la vie matérielle, et c'est cette équation-là qui est à l'origine de tous les conflits. Et finalement, on voit qu'il y a échec perpétuel, on arrive à une humanité dont la règle est la violence, perpétuellement le frère tue le frère, c'est l'histoire des guerres, jusqu'au moment où commence à émerger cette identité d'Israël avec Abraham. Alors, avec Abraham, les deux frères, Abraham et Lot, ils sont exactement des frères, mais ils pouvaient l'être. Abraham et Lot, pas l'autre. Abraham et Lot, on voit que finalement, eh bien, il n'y a pas de massacre. C'est la première fois que c'est le problème de Caïn et d'Abel, mais qu'il n'y a pas de massacre. Ça commence déjà à s'arranger un peu. Et puis, nous avons appris déjà l'histoire de la génération d'après, Isaac et Ishmaël. Finalement, il y aura réconciliation. C'est-à-dire, il y a Rahamanut déjà qui intervient entre les hommes. Mais ce n'est pas encore, ça. Et puis, il y a au stade suivant, Jacob et Ésaü. Et puis, au terme de toute cette sélection, vous voyez pourquoi la Bible fouille ce problème. Elle a raconté le meurtre de Abel par Caïn très rapidement. Enfin, c'est l'identité humaine. C'est le problème qu'il y a à résoudre. Puis quand on arrive à l'histoire des patriarches, elle nous donne beaucoup plus de détails, parce qu'il y a une solution qui se cherche. On sent que, quels que soient les motifs de haine, et ils sont inexpiables, alors il y a quand même déjà tentative. C'est ça le chidouche, le génie de l'identité humaine à partir d'Abraham. On commence déjà à entrevoir la possibilité d'une solution par l'amour du frère pour le frère. Et c'est vraiment, si vous réfléchissez bien, tous les problèmes humains sont là-dedans, dans cette équation-là. C'est pas pour rien que Rabbi Akiva, qui était le premier à le dire, en citant Moïse, a dit que vous rappelez de chidouche. Zeklal, c'est le gadol vatora. Ne croyez pas que ce soit une petite chose, tu vois. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, Rabbi Akiva nous dit, c'est un grand principe de la Torah. N'importe quel élève de Talmud Torah pourrait nous dire la même chose. Mais ce que Rabbi Akiva peut nous dire à la suite de son expérience, c'est que c'est Klal Gadol Batora, avec un état construit. C'est-à-dire que c'est le Klal d'un Gadol Batora. Il faut être grand dans la Torah pour arriver à résoudre cela. Tu aimeras ton prochain. Vous avez compris ce que je dis ? C'est-à-dire que c'est pas Stam, un grand principe dans la Torah. Parce qu'avec les grands principes, on n'arrive nulle part. Je ne sais pas comment vous le savez. Mais, je ne sais pas qui disait, mais il avait raison, que l'enfer était pavé de grands principes. Il disait autre chose. Mais pour arriver à réussir vraiment ces grands principes, il faut un grand changement. C'est ce qu'il est là-bas enseigné. Enfin, l'essentiel, c'est que tu aimes bien, il a utilisé le Targum en disant tu ne feras pas autrui, tu ne vas pas qu'on te fasse. Mais on oublie toujours la fin de la citation, et après il ajoute, et là on va apprendre comment il faut faire ça. Mais vous remarquez pourquoi, c'est l'antisémitisme d'ailleurs, on oublie la fin de la citation. Parce que la fin de la citation, c'est toute la Torah de Shulchan Aruch compris. Et on se borne à citer le principe. Oui. Bien, en tout cas, pour revenir à notre problème, pour les appuis, de quoi je parle ? Oui, et c'est à la génération de Joseph, alors que là on voit vraiment que la solution est arrivée et qu'il s'agit bien d'Israël. Parce que, comme nous le verrons plus en détail plus tard, la haine qu'il y avait entre Joseph et ses frères était une haine beaucoup plus grave que celle qu'il pouvait y avoir entre Caïn et Abel, parce qu'elle était fondée sur le droit. C'est au nom de la vérité et au nom du droit. Ah, c'est pas une haine qui procédait de la méchanceté et du vouloir supprimer autrui. C'était vraiment la haine des tzadikim entre eux. Chacun accusait l'autre d'être rachat au nom de la Torah. Tandis que dans le problème, en général, à l'extérieur d'Israël, au fond, chacun a pu dire le tzadik, c'est pourquoi il veut le tuer. Mais là, dans le problème entre Joseph et ses frères, c'est un procès. Vous comprenez ce que je veux dire? Et effectivement, chacun prend acte qu'en réalité, il devrait être condamné à mort. Et c'est ce que Yehuda dit. Lorsque Benjamin est attrapé par le piège que lui tend Joseph, et lorsque Judas dit à Joseph, la faute de tes frères a été dévoilée, mets-nous à mort, tu as droit. Mais alors Joseph, dit le verset, ne peut pas, parce qu'il m'a pleuré. Alors ça veut dire que ça réussit. Ça veut dire qu'on est arrivé au stade où il y a Rahamanout, des frères pour les frères, quelque chose à motif. Est-ce que vous comprenez le déroulement de ce principe? C'est-à-dire que c'est parti à l'origine de l'agressivité pure et simple entre les personnes, parce qu'il suffit qu'il y en ait deux pour que l'histoire de la guerre commence, Caïn et Abel, et puis toute une recherche pour arriver à fabriquer cette identité d'Israël où le problème trouvera sa solution, et cela c'est vraiment au niveau des enfants de Jacob. Et on voit comment la figure de Jacob apparaît comme en gros plan pour indiquer cela. Alors, mais Jacob prend l'initiative de faire la paix avec son frère, quelle que soit la haine qu'il y avait entre eux. Vous voyez que nous n'avons pas quitté le sujet en réalité. Et le Midrash nous disait, juge de façon ambiguë cette initiative. Certaines parties du Midrash louent la majesté, la noblesse, l'humilité, la hanava de Jacob. D'autres disent l'inquiétude de Dieu, que Dieu la shrina s'est mise à pleurer lorsque Jacob a pris l'initiative de s'incliner devant Ésaü, juste pour obtenir la paix. Parce que ce qui est en jeu, derrière le sort des personnes, ce qui est en jeu, c'est le sort des valeurs. Et si Jacob, qui est le héros de la vérité morale, s'incline devant Ésaü, juste pour faire la paix, alors ça c'est l'autre partie du Midrash. Alors la shrina se met à pleurer, parce que c'est risqué, c'est périlleux, c'est grave. Alors nous allons lire les premiers versets et voir ce qui se passe. Mais je voulais surtout éclairer cela par le fait qu'il va s'agir d'une stratégie. Et c'est une stratégie, comme nous allons le voir, est à deux niveaux. Mais c'est cette stratégie qui est le nom de Jacob, tant qu'il n'est pas reconnu comme du nom d'Israël. Voilà, c'était le premier point. Jacob veut faire la paix avec Ésaü. Et c'est très périlleux, c'est très dangereux. Nous allons lire le premier verset. Alors, vous prenez à partir du livre de Vaïslah. Vaïslah, Yaakov Malachi, et Jacob a envoyé des anges, les fanas, devant lui, et la Estavachi, chez Ésaü, son frère, Arsa Seir, en direction du pays de Seir, Sve Edom, qui est le champ de Edom. avec Farotam, et il les a ordonnés en disant Kotomerun Ladoni Lesav, ainsi vous direz à mon maître, à mon seigneur, Ladoni, à monsieur avec un grand N, à Esav, c'est un peu comme, enfin un peu toute convention gardée, mais quand le carian de la radio israélienne parle du président Sadat, Machine Kazé. Koamar Avdecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Esaü, il a dit votre serviteur, ton serviteur Jacob, Aim Laban Gartu, j'ai séjourné chez Laban, Vaecha Alata, et j'ai tardé jusqu'à présent. Si vous remarquez tout de suite le parallélisme, tout est répété deux fois. Je vous répéterai très brièvement, Vaishlach Yaakov Malachim, Lefanav. Et Jacob a envoyé des anges devant lui. S'il les a envoyés, c'est devant lui. Il y a une répétition. El Esav Achi, à Esaü, son frère. Et nous savons que son frère, c'est Esaü. Arsa Teir, Zéhélon. En direction du pays de Teir, le champ de Edom. Vaitsavotam, les mots, et il les recommanda en disant Kotomerun, ainsi vous direz. L'Adoni, l'Esav, à Monseigneur, à Esaü. Koamar, Avdecha, Yaakov. Avdecha, Yaakov, répétition. Et Lavangarti, Vaitsa, répétition. Et puis la répétition continue. Alors je vous lis en survol. Vaïli sur Vachano, et j'ai eu Bœuf et âne, Son, et Chitra, troupeau, serviteur et servant, Vaïslecha la Lila Adoni, et j'ai envoyé, sous-entendu, une délégation, des Shlichim, les Lila Adoni, pour expliquer à Monseigneur, nous serons Benecha pour trouver grâce à ses dieux. On voit bien qu'il y a une stratégie de Jacob, et qui, comme dit la Midrash, qui inquiète la Shrina. Qu'est-ce que Jacob est en train de faire? Il risque de tout échouer. C'est périlleux. Vayashuvu à Malachi, et les anges sont revenus, et Yaakov les morts, chez Jacob en disant, Banu elachicha Esav, nous sommes allés chez ton frère, chez Esaü, et Gan volechikratecha, et sache, c'est moi qui ajoute, sache que lui aussi vient à ta rencontre, Zarbarneot Ishimo avec 400 hommes avec lui. 400 hommes de guerre. Vaïra Yaakov Meot Vaïtselo. Et Jacob eut très peur et il fut dans l'angoisse. Vaïahat et Aram Asherito, il divisa le peuple qu'il y avait avec lui, Vetatson, Vetabakar, Vagmali, Vishnemachan. Et les troupeaux en deux camps. Retenez aussi ces deux camps dans lesquels il vit. Vaïomer, Inyavo Esa Vagamachane Acha Veikahu, et il dit, si Esaü vient sur le premier camp et le frappe, j'ai à Machane Anishar Lifeta, le camp restant sera rescapé. Retenez que le premier camp, il le met au féminin, Machane Aacha, Veikahu, alors que le deuxième camp, il le met au masculin, à Machane Anishar Lifeta. Alors Rashi explique, nous verrons peut-être tout à l'heure, si nous aurons le temps, Rashi explique qu'en hébreu, Machane, ça peut se mettre soit au féminin, soit au masculin, sans s'en douter en lisant le verset. Maintenant, il va plus loin. Et il dit que c'est le cas aussi pour un certain nombre de mots comme, alors ici, Shemesh, Ruach, des mots comme ça. Alors on verra pourquoi. Vayomer Yaakov, Eloke Abi Abraham, alors Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Eloke Abi Yitzhak et de mon père Isaac, Hachem, Seigneur, à Omer Elai, qui m'avait dit, Shuv le Artecha ou la Techa, reviens à ton pays et à ta patrie. Et je ferai du bien avec toi. Katonti Nicolas Hassadine, je suis trop petit pour toutes les charités, Nicolas Aimé, je suis de la vérité. Asher Asita et Ravdecha, que tu as fait avec ton serviteur, qui veut m'appeler à la clé ta garde nazée, car c'est avec mon bâton que j'ai traversé ce jour-là. Et maintenant, voici que je suis à la tête de deux camps. On voit très bien la logique d'ailleurs. Enfin, rappelez-vous que deux, Shne Machanot. Asilenina Miyadachi Miyadachav, sauve-moi de la main de mon frère, de la main d'Esaü, qui a réanochi Otto, car j'ai peur de lui, Peignavo, Veikani et Malvani. De peur qu'il vienne et qu'il me frappe, mère sur les enfants. Gata Amarta, alors que toi tu avais dit, était Etilima, faire du bien je ferai avec toi, le Santi Taracha Kholayam, et je ferai de ta postérité comme le sable de la mer, Achevo Isaper Merov, qui ne pourra pas être compté en nombre. Alors voilà donc le premier. Il y a toute une série de problèmes qui se posent à la simple lecture même, ce sont, comme nous voyons d'habitude, ce sont d'abord des problèmes d'exégèse. de la forme du récit, mais la réponse que donne le commentateur à ce problème d'exégèse entraîne toute une série de problèmes de fond. Alors nous allons prendre la question centrale. Dans le changement de nom entre Jacob et Israël, l'événement, la péripétie, c'était la lutte, d'abord la lutte avec l'ange des êtres. Alors qu'est-ce que représente cet ange des êtres? Et bien voilà, nous avons un enseignement de la tradition qui nous dit que chaque génie humain a un correspondant dans le monde céleste, dans le monde des anges, a un correspondant qui est son représentant dans le tribunal d'ange. J'ai employé intentionnellement le vocabulaire du Bouddha. C'est-à-dire que toute cette histoire qui se fait sur Terre et qui est racontée dans les journaux, en même temps, elle se développe dans le ciel, pour ainsi dire, c'est-à-dire qu'il y a une récapitulation au niveau de réalité divine de tout ce qui se passe dans l'immanence terrestre. Ainsi en particulier, cet enseignement a été surtout repris par Krochmal, mais c'est un enseignement qui vient de Midrash. Krochmal, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Moren Rucherzman, un livre, c'est un peu plus apicortiste qu'autre chose. C'est un livre très hegélien, d'ailleurs. C'est une espèce de philosophie juive à la manière de Hegel, et qui a été à la base un peu de la philosophie athée du Mapai à l'origine. C'était un des idéologues du masculine, cette espèce de philosophie purement immanentéiste de la nation juive comme génie duquel parlerait la Bible en parlant de Dieu. Vous voyez jusqu'où ça va. Heureusement que les mapaïniques contemporains ne sont plus de ce 18e siècle et demi, mais se sont un peu réveillés de ces choses-là. Mais ça a failli donner une espèce d'idolâtrie d'Israël par lui-même, qui est très dangereuse pour un nationalisme coupé de ses sources bibliques, bibliques dans le sens traditionnel. Mais tout cela vient d'un ouvrage qui nous dit qu'au moment de l'éclatement de l'unité humaine après la civilisation de Babel, vous vous souvenez du texte de la Genèse qui nous dit qu'à partir de ce moment-là, l'humanité qui était une a éclaté en 70 nations. Et qu'en même temps apparaît dans les réalités divines, dans les réalités du ciel, apparaît ce qu'on appelle familia shel ma'ala, la famille d'en haut, ou le bet din shel ma'ala, le tribunal d'en haut, suivant les textes, c'est-à-dire à peu près la même réalité. Parfois vous avez un verset qui dit Veha Elohim, Veha Elohim, au lieu de dire Elohim, mais Veha Elohim ou Veha Shem, suivant le cas. Alors le Midrash dit vous ou bet din, c'est-à-dire Dieu et son tribunal. Parfois il y a l'article Veha Elohim. Et cette familia shel ma'ala, c'est un mot de l'hébreu rabbinique, de la famille d'en haut, c'est l'ensemble des sarim, c'est-à-dire des princes célèbres, qui sont les génies des nations qui ont apparu sous forme partielle lors de l'éclatement, de cet éclatement de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a, donc une espèce de providence pour les nations du monde qui passe à travers le génie propre à chaque nation. Et il faut entendre ce terme de génie dans le double sens qu'il a en français. À la fois le génie au niveau des catégories immanentes, de nouveau, le génie d'un peuple, le génie d'une, je ne veux pas dire d'une race, ça nous arrête trop loin, enfin, le génie d'une ethnie, le génie d'une culture. Et d'autre part, le génie dans le sens d'un prince céleste qui en est le génie, le tsar de la Houma. Le Midrash explique, par exemple, lorsqu'il y a une guerre entre deux nations, les sarim se font la guerre en haut. Et puis, c'est celui des sarim qui est plus fort. Dans la nation triomphe sur le champ de bataille. Il y a des paradoxes lorsqu'on voit des petites nations triompher des plus grandes nations. C'est parce que en haut, le tsar a été battu. Ça veut dire, expliquer de cette manière-là, lorsqu'une nation a le droit pour elle-même, quelle que soit sa force ou sa faiblesse matérielle, elle finira par triompher. Et finalement, des guerres morales qui sont gagnés, enfin des guerres qui sont gagnées ou perdues pour des raisons d'ordre moral, quelle que soit d'autre part je vais vous donner un exemple qui est d'ailleurs très ambigu, parce que entre la peste et le choléra, on sait jamais qu'est-ce qu'il faut bien choisir. Enfin, le fait que les Indochinois arrivent à tenir en échec l'Amérique, et quelles que soient toutes les explications matérialistes qu'on peut donner, c'est quand même un événement du siècle. Bon, c'est que le tsar du Vietnam a plus raison que le tsar de Britannique. C'est au niveau moral et que c'est autre chose. Je ne sais pas ce qui arriverait à l'humanité si le tsar de la Chine triomphait, mais enfin, quoi qu'il en soit, oui, c'est la peste et le choléra. Mais enfin, c'est la peste et le choléra. Bien, en tout cas, pour revenir à notre problème. Oui. Pardon. Attendez. Attendez, comprenez bien. Le génie de la nation considérée dont je vous parle, le phare de la nation, en fin de compte, c'est la nation elle-même. C'est la nation elle-même, mais au niveau de sa valeur spirituelle, au niveau de son génie propre. Et pas seulement au niveau. Vous savez, les sociologues contemporains, j'ai oublié les noms, enfin, c'est la thèse contemporaine en sociologie, ça peut éclairer notre problème. Il y a une théorie selon laquelle chaque nation se définit par un sens et une puissance. Voilà la différence. Il y a un sens, un projet, une signification. Bon. Et une puissance. Et alors, le drame de l'humanité contemporaine, c'est que les nations ne se connaissent plus qu'au niveau des puissances, on dit les puissances, et ne se connaissent plus au niveau des projets d'être, au niveau du sens de chaque manière d'être. Alors, ce que je disais tout à l'heure, peut-être un peu rapidement, c'est quand on est devant ces paradoxes de petites nations, moins fortes matériellement, qui arrivent à vaincre de grandes nations, c'est parce qu'au niveau moral, le phare est plus puissant que l'autre. Et alors, dans notre problème, Jacob a lutté avec Ésaü. Et il y a donc à lutter avec le génie d'Ésaü.